Vous êtes sur RTL.
C'est à suivre cette semaine.
Alors à suivre cette semaine, tiens, demain lundi aux États-Unis, la réunion du collège des grands électeurs, ils vont formaliser le résultat de la présidentielle et officialiser la victoire de Joe Biden. À Paris, on attend une rencontre et des échanges entre Emmanuel Macron et 130 membres de la Convention citoyenne pour le climat. À noter aussi, demain, le tirage au sort de la Ligue des champions pour PSG. Mardi, ce sera la fin du second confinement, mais le début d'une nouvelle période de disette pour le monde du spectacle qui pensait pourtant bien repartir. On en parlera dans 5 minutes avec Tabas. Mercredi, ce sera le verdict au procès des attentats de janvier 2015. Jeudi, une grève à la RATP contre l'ouverture à la concurrence. Et puis vendredi, le dernier 13h de Jean-Pierre Pernaut, qu'on salue bien bas, évidemment. Et une page va évidemment se tourner. Et puis on suivra également mardi le lancement d'une nouvelle campagne de la sécurité routière. Invitée d'RTL dimanche soir, Marie Gauthier-Mellerey, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. En cette période marquée par le deuxième confinement, par des chiffres d'ailleurs très positifs, puisque le nombre de tués en France sur les routes en novembre a été inférieur de 34% à celui de novembre 2009. Donc, dans ce contexte, quel message voulez-vous faire passer avec cette campagne et ces films signés Arnaud Desplechin ?
Dans cette période compliquée où les Français retrouvent peu à peu plus de liberté dans leur déplacement, la nouvelle campagne de la sécurité routière nous invite en fait à nous rappeler que quand nous sommes sur la route, il faut garder à l'esprit ce qui compte vraiment. C'est ça l'objectif, de mettre en parallèle au fond les petits et les très grands bonheurs de la vie, comme jouer avec son enfant et l'entendre rire ou prendre son bain en chantant un air qu'on adore. Mettre ces moments très précieux de vie en parallèle avec les risques que parfois on est tenté de prendre sur la route et qu'on ne devrait pas prendre précisément pour sauver tous ces beaux moments.
Mais alors, on est à mille lieues des campagnes choc, hein. Vous montrez justement ces petits instants de bonheur. C'est aussi efficace que des scènes d'accident ou de détresse ?
Je pense qu'il est important que nos concitoyens retrouvent le sens de l'action de la sécurité routière et nous avec eux. Je pense qu'il est tout à fait vital qu'on se rappelle chaque fois qu'une règle nous ennuie un petit peu, qu'on est tenté de la contourner, qu'on se rappelle pourquoi elle est faite. Elle n'est pas faite pour embêter les gens, elle est pas faite pour casser les pieds des Français, elle est faite pour préserver la vie, sauver la vie. La sécurité routière a enregistré des succès absolument fabuleux depuis qu'elle existe, depuis 1972. Il est important qu'on continue parce que l'enjeu, il est là. C'est la vie.
Et on connaît, on a mesuré l'impact de ces campagnes de com, notamment à la télé, sur la sécurité routière.
Oui, on a bien sûr mesuré ces impacts et on s'aperçoit qu'il est important précisément, non pas juste d'inciter sur les risques, mais aussi de mettre en avant ce qu'on gagne à respecter un certain nombre de prescriptions.
On se souvient de slogans hein, qui ont marqué les esprits dans le passé, un verre ça va, trois verres bonjour les dégâts, ou un petit clic plutôt qu'un gros choc. On a le sentiment qu'aujourd'hui, l'idée prime finalement sur la formule, sur le slogan.
L'idée est pas seulement l'idée. J'espère que les films que vous allez découvrir et les visuels que vous verrez dans la presse sont non seulement une idée, mais c'est une idée qui est aussi portée par une émotion, avec précisément des moments qui font sourire, qui font rire parfois même, je crois. Et donc cette célébration de la vie, des émotions qu'on ressent. Je pense qu'il faut les garder avec nous et les garder avec nous quand on est confronté à l'idée, justement.
Alors, ce sont donc des spots signés pour la télé Arnaud Desplechin qui déclinent l'idée que la vie est plus douce, plus belle, qu'un record de vitesse sur l'autoroute, qu'un stop grillé, qu'un dernier verre avant de prendre le volant ou qu'un joint avant de prendre la route. Je voudrais m'arrêter un instant sur le cannabis. La précédente campagne expliquait que c'est illégal le cannabis et qu'en voiture ça peut être fatal. Là, vous ne soulignez plus l'illégalité de la consommation de drogue. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe finalement à déconseiller une pratique qui est interdite par la loi ?
Non, la pratique est interdite. Elle est interdite dans tous les cas parce que la consommation de stupéfiants a des effets nocifs multiples. On s'inscrit dans une campagne où on souligne, en plus de ces effets multiples nocifs, les effets qui ne sont pas toujours suffisamment perçus et qui aussi concernent le risque routier. Mais il n'y a absolument pas de contradiction et aucune intention de distancier les deux. Le cannabis, c'est interdit dans tous les cas, et les stupéfiants, ça l'est. Mais c'est vrai qu'on ne mesure pas toujours qu'en plus de tous les risques qui peuvent être exposés par d'autres acteurs gouvernementaux, et nous inscrivons dans une politique globale, bien évidemment, au-delà de ces risques qui sont soulignés par ailleurs, il y a un risque routier très important, puisque je rappelle que 23% des accidents mortels sur la route, au moins l'un des conducteurs avait consommé des stupéfiants. Donc, j'insiste fortement sur le fait qu'on perçoit certains risques liés aux stupéfiants peut-être davantage qu'un risque routier qui existe aussi et qu'il convient de combattre. La consommation de cannabis, par exemple, ça double le risque d'être responsable d'un accident mortel. Et je rappelle que c'est pas une question de quantité, c'est pas une question de délai. Toute présence de stupéfiants dans l'organisme suffit à déclencher la sanction, parce que c'est bien la conduite après usage de stupéfiants qui est totalement, absolument interdite.
Un dernier mot, Marie Gauthier-Mellerey, après ce deuxième confinement, alors que ce soit pour les fêtes ou après, est-ce que vous craignez un relâchement des comportements avec cette liberté de circuler retrouvée, et quel est le message que vous adressez ce soir aux auditeurs d'RTL ?
En effet, nous avions constaté en sortie de premier confinement que des comportements à risque avaient perduré au-delà du confinement, et notamment les très grands excès de vitesse. Nous sommes donc très vigilants dans cette période, encore une fois, où nous retrouvons petit à petit une plus grande liberté de déplacement. Et donc j'ai envie de reprendre au fond, à l'intention de vos auditeurs, le slogan de la campagne, c'est-à-dire de les appeler à ne jamais oublier ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, bien sûr, c'est la vie, et la vie que nous pouvons tous ensemble préserver.
Marie Gauthier-Mellerey, merci beaucoup, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Merci d'être intervenue ce soir sur RTL. Alors, à suivre également cette semaine, cette fameuse date du 15 décembre où l'on va déconfiner partiellement, fini les attestations, mais fini également l'espoir d'aller dès mercredi prochain de nouveau au cinéma, au théâtre, au concert, au spectacle. Le rendez-vous manqué des artistes. Quelles conséquences ! Bartabas et son magnifique cheval Tsar pensaient bien présenter le nouveau spectacle de Zingaro, Entretien silencieux, début novembre. Et puis il s'était fait à l'idée du 15 décembre. Et puis finalement, ce ne sera pas avant, au mieux, le 7 janvier. Bartabas est donc avec nous ce soir en direct sur RTL. Bonsoir Bartabas.
Bonsoir Vincent Parisot.
Merci beaucoup. Dites-nous tout d'abord comment vous avez réagi jeudi soir en écoutant Jean Castex, en apprenant que finalement vous n'alliez pas reprendre le 15 décembre.
Bah écoutez, c'est un mélange de consternation, vous vous en doutez bien, surtout que ça fait deux fois qu'on nous fait le coup. Le premier confinement, on avait une grosse production au mois de mars, avec toute sa tournée qui a été complètement annulée. Puis bon, faut savoir que Zingaro, c'est une compagnie qui est moitié homme, moitié chevaux, donc c'est des mises au point qui sont assez longues, assez lourdes. On peut pas comme ça rechanger, reprendre, voilà. Et puis après, il y a une énorme... Enfin, moi, je me battrai pas sur le terrain. Je pense que Charles Berling l'a très bien fait, de l'incompréhension de pourquoi les salles de cinéma sont fermées, alors que les salles de théâtre, de cinéma sont fermées, alors que...
C'est-à-dire que vous...
Et que le lieu de culte, on va pas revenir là-dessus. Mais moi, je suis vraiment... consterné par l'incompétence, voire l'inconscience même du ministre de la Culture. Quoi. C'est-à-dire comment on peut jouer avec les artistes. Moi, j'aurais préféré qu'on dise carrément comme en Allemagne, qu'on ait le courage de dire, voilà, les salles sont fermées jusqu'à nouvel ordre, peut-être fin janvier, parce que là, on recommence le même coup, on nous prend vraiment pour des cons. Vous croyez que le 9 janvier, on va pouvoir ouvrir les salles ? Alors que les gens auront bougé pendant les fêtes, donc on sait très bien qu'en janvier, il y aura une montée de pic, c'est évident. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Voilà, ils ferment définitivement jusqu'au moins au 20 janvier. Donc, parlez clairement.
Ça veut dire, Bartabas, que vous ne croyez même pas à une réouverture le 7 janvier ?
Écoutez, je crois que les gens ne se rendent pas compte. C'est là où je suis furieux, parce que je pense que tout ça, c'est des énarques qui travaillent dans les cabinets ministériels, qui sont même pas au courant de comment ça fonctionne. C'est comme si vous disiez à un sportif qui se prépare pour une compétition, qui est dopé jusqu'à la moelle pour le jour J, et vous lui dites un jour avant, ah ben non, c'est reporté à dans 15 jours. Puis après, dans un mois. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, on peut pas déjà comparer avec le sport. On dit les compétitions ont lieu, hein. Il n'y a pas de spectateurs, mais elles ont lieu. Un comédien qui se prépare, un danseur qui se prépare, un artiste qui se prépare, c'est comme un sportif. Il y a un entraînement, il y a une programmation de travail pour arriver le jour J, être prêt, plus toute l'organisation du théâtre. voilà, ça se mobilise pas comme ça avec des petites informations. On sait très bien comment ça marche. On balance les informations aux médias d'abord. On connaît par cœur le truc. Ça part de l'Élysée ou de Matignon. On envoie aux chaînes de télé et de radio l'information que peut-être, vous saviez très bien qu'avant la déclaration d'avant-hier, tout le monde annonçait déjà que le 15, ça serait pas réouvert. Donc on nous prend vraiment pour des cons, quoi. Moi, je suis vraiment furieux, vous savez, à cause de ça, parce que j'ai pas tellement le fait, je ne conteste pas le fait que ce soit fermé, c'est pas mon domaine, je suis pas médecin, voilà, le chiffre que... Alors, on va vous dire, oui, mais le président, vous avez prévenu, hein, mais même vous, toutes les chaînes, tout le monde était prêt à dire que le 15, ça allait réouvrir.
C'est la manière de communiquer que vous n'acceptez pas.
C'était contenu dans les propos du président. C'est-à-dire, on va vous autoriser, et c'est quoi ce chiffre? Moi, je suis pas un spécialiste. Le seul chiffre que je respecte par respect pour les soignants, c'est les entrées à l'hôpital aux urgences. Ça, c'est le chiffre que je respecte. Le jour où on dit attention, là, hop, on atteint un seuil rouge, là, tout le monde doit fermer sa gueule et on doit se confiner. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire le nombre de cas? Vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de gens qui se testent avant les fêtes, donc mathématiquement, il y a de plus en plus de cas, évidemment. C'est pas qu'ils sont nouveaux, c'est qu'ils étaient déjà avant, mais qu'ils ne le savaient pas.
On entend votre colère, Bartabas.
Personne ne dit rien, tout le monde est complice du truc, parce que ça fait un peu un jeu médiatique. On annonce un truc, et après on emmène une information, ça permet de maintenir encore le suspense, et là ça recommence le 7 janvier. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je peux dire aux spectateurs, pour la troisième fois, faites-vous rembourser, et prenez des places pour le 9 janvier? Non, moi je jette l'éponge, j'arrête jusqu'à l'été. Maintenant, je sais qu'on travaillera pas, c'est tout. Et il y aura les conséquences que ça aura. Et encore en France, il faut rendre ça, mais ça vient pas de c'est ancien. Voilà, on peut dire que nous les Français, on est privilégiés au niveau de la culture. Ça, faut quand même le dire. Et faut pas oublier j'ai beaucoup de collègues en Angleterre, en Espagne, à Cuba, un peu partout. Je peux vous dire que les danseurs et les comédiens, la vie autrement plus difficile qu'en France.
Hein. Bartabas, je vais revenir sur quelque chose que vous venez de nous expliquer. Votre spectacle Entretien silencieux, donc que l'on attendait maintenant depuis novembre et qu'on n'a toujours pas pu voir, ce spectacle, vous n'allez finalement pas le présenter?
Bah non, je vais le présenter quand? Il faut démonter le décor. Il y a toute une installation sonore de l'IRCAM qu'il faut bien démonter. On va pas rester 4 mois avec le matériel loué qui ne sert à rien. Voilà. Donc après, il y a des travaux qui vont commencer pour normalement 2020. On est obligé de prévoir pour 2021. Voilà. Donc j'hypothétique l'année prochaine encore. Donc à un moment, il y a des choix à faire. Je verrai si cet été peut-être. Mais bon, voilà, je ne peux décemment plus dire pour la troisième fois aux spectateurs rendez-vous dans un mois. Enfin, on est ridicule. On est ridicule.
Et
surtout, voilà, il y a une préparation. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'il y a un travail préparatoire. Il n'y a pas que ça, quoi. Il y a aussi, l'envie de créer, c'est notre moteur, hein. Et le travail, c'est l'essence qu'on met dedans, hein. Donc, je veux dire, le travail, on l'investit. C'est pas un travail comme ça, on le prend de rigolo. Oui, les comédiens commencent à répéter dans les théâtres. Non. Il y a toute une préparation. C'est comme un sportif, hein. Voilà, il y a une progression dans le travail, surtout avec les chevaux. Voilà, c'est très technique, ça se fait pas comme ça, ça se met pas en attente pendant 3 mois pour reprendre du jour au lendemain. Déjà, il y a une latence dans le spectacle vivant. Il faut refaire une communication, il faut refaire la presse, il faut revendre les places. C'est pas comme une librairie même qui peut s'ouvrir du jour au lendemain, ou un magasin.
Bartabas, il nous reste peu de temps. Quelles sont les conséquences pour vous, pour la troupe, bien sûr pour tous les chevaux qu'il faut nourrir, soigner?
Je suis pas là pour parler de moi. Comme tout le monde, elles sont dramatiques comme tout le monde, mais c'est pas ça qui m'énerve. C'est que je pense que on a été traité vraiment par-dessus la jambe et que c'est pour moi, c'est de l'inconscience, voire de l'incompétence politique, quoi. Ou c'est de la fine politique, ceci dit, hein, parce que le président n'est pas innocent, hein. Quand on nomme ministre de la Culture, une docteure en pharmacie
qui a fait des grossesses,
on sait très bien qu'on va être couvert en cas de mauvaise nouvelle, quoi. Je veux dire, faut pas prendre les gens pour des cons, quoi.
On entend toute votre colère, votre désarroi. En tout cas, merci de l'avoir exprimé sur l'antenne d'RTL, parce que ça illustre parfaitement ce que ressentent.
Excusez-moi de m'être un peu énervé, mais bon.
Évidemment, c'est totalement compréhensible. Et puis surtout, on retient votre dépit et votre décision aussi de jeter l'éponge pour ce spectacle que certains attendaient, hein, fébrilement de pouvoir voir. Vous étiez tout seul avec votre cheval Tsar, Entretien silencieux. On espère vraiment que ce n'est que partie remise. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup de cet entretien, en tout cas sur RTL.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Bartabas. Allez, courte pause. Et puis, dans un instant, on va allumer l'autoradio avec Christophe Bourou. À tout de suite.